Laudetur Jesus Christus.
Nous ne pouvons pas prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine et fermer les yeux sur le racisme et l'exclusion. C'est ce qu'a déclaré le pape ce matin lors de l'audience générale au sujet des manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd la semaine dernière. L'Italie rouvre ses frontières aux touristes européens. Les Italiens sont également autorisés à voyager d'une région à l'autre depuis aujourd'hui. Dernière étape en date du déconfinement dans la péninsule. Inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé concernant la situation sanitaire à Haïti. C'est le troisième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 dans les Caraïbes. Accord au Venezuela entre le président Maduro et l'opposant Juan Guaido sur la récolte de fonds pour lutter contre la pandémie. Une première entente en plusieurs années de crise politique.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, le pape François s'est donc exprimé ce matin sur la vague de protestations qui secoue les États-Unis depuis la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis le 25 mai dernier. Les manifestations contre le racisme et les violences policières se sont propagées dans plus d'une centaine de villes américaines avec des milliers d'arrestations. Depuis la bibliothèque du Palais apostolique ce matin où se tenait l'audience générale, le pape François s'est donc adressé aux Américains en condamnant fermement le racisme, mais aussi tout recours à la violence.
Chers frères et sœurs des États-Unis, je suis avec une grande inquiétude les douloureux troubles sociaux qui se produisent dans votre pays ces jours-ci à la suite du décès tragique de Monsieur George Floyd. Chers amis, nous ne pouvons tolérer ou fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine. Dans le même temps, nous devons reconnaître que la violence des dernières nuits est autodestructrice. La violence n'apporte rien et fait perdre beaucoup. Aujourd'hui, je m'unis à l'église de Saint-Paul et de Minneapolis et à tous les États-Unis pour prier pour le repos de l'âme de George Floyd et de tous les autres qui ont perdu la vie à cause du péché du racisme. Prions pour le réconfort des familles et des amis endeuillés. Prions pour la réconciliation nationale et la paix à laquelle nous aspirons.
E degli amici affranti e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui anneliamo.
Notre Dame de Guadalupe, Mère de l'Amérique, intercède pour tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice sur ta terre et dans le monde. Que Dieu vous bénisse tous, ainsi que vos familles.
Le pape François, lors de l'audience générale ce matin, toujours lors de l'audience, Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière. C'est cette fois-ci la figure du patriarche Abraham qui était au centre de l'allocution de François. Le père des croyants, qui se plaint de ne pas avoir de descendance, pose un acte de foi en faisant confiance à la parole entendue. Et il nous apprend à faire de même, a expliqué François, invitant à prier avec foi, à écouter le Seigneur, à discuter avec lui. Une discussion filiale qui nous conduit à être toujours disposés à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Plus d'informations sur cette audience sur notre site internet www.vaticannews.va. 3 mois que le ciel était calme dans le nord-ouest de la Syrie hier soir avant minuit et ce matin à l'aube, des appareils russes ont bombardé des positions du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham dans une zone située à la lisière des provinces de Hama, Idleb et Latakié. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 2 autres groupes ont également été visés. C'est la première fois que les troupes russes passent à l'action depuis l'entrée en vigueur d'une trêve le 6 mars dans cette région. Les Allemands pourront partir en vacances en Europe. Le gouvernement allemand va lever le 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe. Une décision qui devrait ravir les Italiens. Depuis aujourd'hui, en effet, les frontières du pays sont ouvertes aux Européens et à l'intérieur de la péninsule, il est désormais autorisé de circuler librement entre les régions. Une nouvelle étape prudente pour le deuxième pays européen le plus lourdement endeuillé par le virus après le Royaume-Uni. À Rome, Blandine Hugonnet.
L'Italie libérée du confinement, le pays redémarre enfin libre. Depuis ce matin, la presse ne cesse de fêter la fin des restrictions. Après quasiment 3 mois enfermés, les Italiens peuvent enfin sauter dans des trains pour traverser le pays sans justificatif. Effet de cette libération, à la pointe de la botte, le port du détroit de Messine a été pris d'assaut par des files entières de voitures prêtes à rejoindre la Sicile. Mais certaines régions craignent que le virus ne se propage dans le sud et restent sur leur garde. La Sardaigne, par exemple, incite à fournir un test de négativité et veut faire remplir remplir un questionnaire à tous les arrivants, ou la région de Rome qui compte prendre la température de tous les voyageurs dans les gares. Mais le pays reprend vie, c'est réjoui le gouvernement, qui espère aussi sauver le secteur clé du tourisme en Italie. Et c'est l'objectif de la réouverture des frontières italiennes. À partir d'aujourd'hui, tout Européen peut venir dans la péninsule sans attestation ni quarantaine à l'arrivée. Mais les professionnels du secteur craignent que les touristes soient rares cet été. Avec plus de 33 500 décès liés au coronavirus, l'Italie est un des pays les plus touchés d'Europe et nombre de ses voisins européens ont déjà prévenu que la réouverture des frontières avec l'Italie n'est pas prête d'être réciproque. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
La pandémie n'a pas arrêté les arrivées de migrants clandestins en Europe. L'association SOS Méditerranée estime même que la crise humanitaire en Méditerranée centrale s'aggrave pour atteindre aujourd'hui des niveaux sans précédent. L'ONG demande notamment que les 425 personnes recueillies lors des jours derniers soient débarquées à terre dans un lieu sûr. Elles sont actuellement bloquées dans les eaux internationales à bord de bateaux de croisière privés affrétés par le gouvernement maltais qui évite ainsi de les amener sur son territoire. La Chine appelle le Royaume-Uni à cesser immédiatement toute ingérence dans les affaires hongkongaises. Déclaration de Pékin après l'appel de Londres à ne pas imposer une loi controversée sur la sécurité nationale dans le territoire autonome. Les États-Unis, l'Australie et le Canada ont également publiquement exprimé leurs craintes quant à ce projet. Le texte qui a obtenu le feu vert du Parlement chinois mais qui n'est pas finalisé prévoit de punir les activités séparatistes, terroristes, la subversion ou encore les ingérences étrangères dans le territoire. Dans le reste du, dans le continent, sur le continent latino-américain, la pandémie continue de s'étendre et de susciter l'inquiétude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La situation est loin d'y être stabilisée, faisant peser la menace de faire s'effondrer les systèmes hospitaliers. Le Brésil, le Pérou, le Chili et le Mexique figurent parmi les 10 pays ayant recensé le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. L'inquiétude est vive notamment dans les Caraïbes et principalement pour Haïti. Franz Emmanuel.
Haïti est désormais le troisième pays le plus touché de la Caraïbe par la Covid-19, derrière la République dominicaine et Porto Rico. Ces dernières 48 heures, Port-au-Prince a dépassé la barre des 2200 cas, avec un nombre de morts deux fois supérieur au cas de guérison, pas une seule zone à travers le pays où cette dernière tendance est inversée. Les statistiques confirment une propagation en pleine accélération chaque jour, avec finalement très peu de cas contractés à l'étranger. Il s'agit surtout d'une transmission interne au plan national, ce qui met une nouvelle fois à l'index les capacités du pouvoir à gérer une crise. Trop d'Haïtiens continuent d'ignorer les consignes sanitaires, faute probablement d'informations suffisantes. Quant au matériel dans les hôpitaux, il fait défaut. Pourtant, 18 millions de dollars d'équipements avaient été achetés à l'étranger. Les centres de soins semblent les attendre toujours. Fort de France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Au Venezuela, un accord inattendu a été signé entre le gouvernement et l'opposition. Cet accord, conclu sous la houlette de l'Organisation panaméricaine de la santé, vise à rechercher des fonds pour lutter contre le coronavirus. Au-delà de l'accord lui-même, qui devrait donner un peu d'oxygène au Venezuela en pleine pandémie, le fait d'avoir fait signer un même document à des représentants de Nicolas Maduro et de Juan Guaido relève de l'exploit tant les deux camps s'opposent en tout point. Les précisions de Benjamin Delisle.
Il n'y a pas eu de poignée de main symbolique, mais ils sont tout de même tombés d'accord. Ce mardi 2 juin, l'opposition et le gouvernement vénézuélien ont annoncé tour à tour avoir signé un plan de coopération technique pour traiter la crise humanitaire du coronavirus. Et c'est à l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, que l'on doit ce rapprochement inattendu. À en croire à un communiqué de l'équipe de Juan Guaido, cet accord devrait permettre de débloquer et mobiliser des fonds rassemblés depuis plusieurs mois. Ces fonds permettront de livrer du matériel médical pour protéger le personnel soignant et améliorer les capacités de diagnostic et de traitement du coronavirus au Venezuela. Selon l'OPS, qui encadrera tout ce processus, la distribution se fera via des organismes internationaux et sans passer par le gouvernement de Nicolas Maduro. C'est peut-être la plus grande concession faite par les autorités qui refusaient jusqu'à présent toute ouverture d'un canal d'aide humanitaire indépendant. Reste que cet accord, aussi encourageant soit-il, ne devrait pas enrayer la lutte acharnée que se livrent Juan Guaido et Nicolas Maduro pour le pouvoir.
Benjamin Delisle. La Cour suprême de Colombie a annoncé hier l'ouverture d'une enquête contre l'ancien président colombien Alvaro Uribe. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'écoutes illégales menée par des militaires. La revue Semana a révélé en mai l'existence d'un réseau d'espionnage du renseignement militaire contre quelques 130 journalistes, hommes politiques, militaires en retraite et syndicalistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.